L'enfant s'était assise sur son lit, et comme celui-ci ne se trouvait contre le mur que dans sa largeur, elle ne pouvait s'adosser. Jean Michelet remarqua alors que le dos de la fillette était voûté au point de former un demi-cercle. Elle le regarda, et comme au même moment il venait de poser ses yeux sur elle, elle rougit, tourna la tête, baissa les paupières. « Cela ne va donc pas, ma petite ? » demanda-t-il à l'enfant. « Je te fais peur ?» Dinah leva et baissa les yeux à plusieurs reprises, mais sans bouger la tête, et rougit plus encore. « Je ne te ferai pas de mal. » Sa poitrine se soulevait. On devinait que la présence de cet homme était pour elle un événement extraordinaire. Sa gorge se contractait. Par moments, ses doigts tremblaient quelques secondes. Madame Auriol s'approcha d'elle, s'assit à son côté, la prit par la taille pour l'obliger à se redresser. « Allons, Dinah, » fit-elle, « réponds à monsieur qui est très gentil. » Alors elle se jeta contre sa mère. Au bout d'un moment, elle osa enfin un coup d'œil. « Je n'ai pas l'air si méchant. »« Oh, ne vous formalisez pas, monsieur, c'est une petite sauvage. »« je comprends, mais elle ne doit pas avoir beaucoup d'amis avec un tel caractère. » Madame Auriol n'écoutait pas l'entrepreneur. Elle s'efforçait de faire sourire son enfant. Mais plus elle insistait, plus l'enfant s'énervait. Soudain, Dinah cacha complètement son visage dans la poitrine de sa mère, cependant qu'une de ses mains, ce qui montrait que ce n'était pas une peur semblable à celle d'un accident qui la bouleversait, pendait au dehors, libre, pouvant être prise et non repliée sur le corps. Jean Michelet, sous sa bonhomie, était un peu gêné. Comme beaucoup de timides, il suffisait qu'il se trouvât, lui, d'ordinaire à l'aise en toutes circonstances, en présence de quelqu'un que sa présence embarrassait, pour que le fond de sa nature reparût. Madame Auriol ne savait quoi lui dire, et pourtant elle voulait être aimable. Il le sentait. En outre, il venait de lui apparaître que cette mère et sa fille avaient une vie qui leur était propre, dans laquelle ils s'introduisaient sans grande raison, puisqu'ils savaient très bien qu'ils ne leur viendraient jamais en aide. Il s'entretenait avec Madame Auriol lorsqu'il entendit sa femme qui l'appelait de la villa. « Jean, Jean, Monsieur Dossé est là, il veut te parler !» L'entrepreneur se leva et, après s'être excusé, se hâta vers la propriété. « Eh bien, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Dossé immédiatement. Madame Michelet lui avait tout raconté et cette histoire le troublait plus qu'il ne voulait le laisser paraître car Madame Auriol était sa locataire. On pouvait lui faire des reproches. Il s'imaginait être en partie responsable de cette histoire. On pouvait lui dire « Vous logez du beau monde, vous prenez donc n'importe qui chez vous, vous acceptez les gens sans prendre de renseignements. Qu'est-ce qui est donc arrivé ? Madame Michelet m'a raconté. Mais c'est incroyable ! Rien ne m'aurait laissé supposer une pareille chose. Mais que s'est-il donc passé exactement ? Ah, ce monde d'après-guerre, il est propre. Dans cette affaire, c'est encore moi qui vais être le plus ennuyé. » C'est une manie des gens de petit esprit de craindre continuellement que leurs actes les plus insignifiants aient de graves conséquences. Ont-ils recommandé, par hasard, une bonne qui boit, qu'ils se sentent directement compromis? L'indemnité est leur phobie. Monsieur Dossé ne savait plus où se mettre. L'entrepreneur, qui le remarqua, lui dit « Vous pouvez être content de vous, vous m'en avez joué une bien bonne. À cause de vous, je suis dans une situation bien embarrassante. Dites-moi ce qu'il faut faire maintenant, je vous écoute. » Le propriétaire réfléchit un moment, puis répondit « C'est bien simple, je vais leur donner congé. Ils partiront à la fin du mois. » Alors que pour lui, un congé était une affaire d'État, qu'il eût plutôt traîné son propriétaire en justice que de quitter un appartement contre son gré, il trouvait tout à fait naturel, en ce qui concernait les gens d'aujourd'hui, de ne prendre aucune précaution. « Ça, vous ne pouvez pas le faire, monsieur Dossé, » fit Antoinette. « Je peux toujours faire ce qui me plaît, mais je veux dire, » continua le propriétaire, « que je les chasserai s'ils ne règlent pas leur loyer, ce qui me paraît devoir devenir le cas. Je n'ai pas à entrer dans des considérations de maladie, de mort, de mariage, de divorce. Tout cela ne me regarde pas. » Et il y a autre chose. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent chez eux, je n'y verrai pas d'inconvénient, du moment, bien entendu, qu'ils ne se livrent à aucune dégradation. Mais qu'ils s'avisent d'aller trouver les voisins, ça non. Pourquoi je passe, moi ? J'ai l'air de les encourager en dessous, de fermer les yeux, d'être leur complice, de partager même avec eux si l'affaire réussit. Nous sommes d'accord sur ce point, Dossé, mais tout de même, il ne faut pas perdre de vue que la petite est gravement atteinte. Jean Michelet, sans s'en apercevoir, défendait maintenant la mère et l'enfant, de façon à faire quelque chose pour elle qui ne lui coûte à rien. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous prouve qu'elle est réellement malade, cette petite ? Tout cela, c'est peut-être une comédie pour vous attendrir. Dossé avait bien appuyé sur les deux « vous » de manière à faire comprendre qu'on ne lui avait rien demandé et que cette affaire ne le regardait pas. « On va bien le savoir, » dit Antoinette. « Voilà justement le docteur Piton qui se rend au pavillon. Vous n'avez qu'à y aller dans un instant, messieurs. » « Et même si elle est malade, » continua M. Dossé, « vous n'y pouvez rien, Michelet. Je vous assure que, si vous commencez à venir en aide à ces gens, on frappera tous les jours chez vous. Et ne croyez pas que ce seront des farceurs. Ils seront tous sincères. Ils seront tous malheureux. Ils auront tous mille raisons valables de vous attendrir. Essayez, tenez, vous allez voir. Je ne demande que cela. Après, vous viendrez me trouver et vous me direz, « Ah, si je vous avais écouté !» Vous me le direz, je vous l'assure. » Jean Michelet était profondément écœuré par les paroles de Dossé. Cet égoïsme le déconcertait. Il ne lui venait naturellement pas à l'idée d'aider Madame Auriol, mais il croyait que c'était pour des raisons toutes différentes. Cet éternel raisonnement, « Si c'était moi qui fusse malade, qui eusse besoin de quelqu'un, qui s'occuperait de moi ? Personne !» Pourquoi donc viendrais-je au secours de ces mêmes gens qui, les rôles renversés, ne tourneraient même pas la tête de mon côté ? Dictait son attitude. Cette dernière lui semblait donc juste, alors que celle de Dossé, quelle bassesse, quels obscurs sentiments de jalousie, de vengeance, la commandait. Mais il y avait, dans le cas de Madame Auriol, un point qui gênait, quoi qu'il fît pour ne pas le voir, la conscience de Jean Michelet. C'est qu'il avait vaguement l'intuition de se trouver en face de la femme qui, les rôles justement renversés, ne l'eût point abandonné, en face de la femme qui, à la place de tous les gens qu'il avait fait souffrir, l'eût rendu heureux. Il avait cette intuition, mais il avait également peur de se tromper. Denise ne lui avait-elle pas donné la même impression ? Et Chibelout ? Et son jeune frère ? Ah, s'il s'était agi de Dossé, comme tout eût été simple, avec quelle passion eût-il même souhaité qu'il s'enlisât davantage ? « Allons, mon vieux, qu'allez-vous faire ? » demanda Dossé. « Eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut attendre, on va voir. Vous, de votre côté, vous devriez leur remonter un peu le moral, aller les voir, leur laisser entendre que vous n'exigerez pas le loyer à date fixe, afin de les ranimer, de leur donner un peu d'espoir. » « C'est très bien ce que vous dites là, mon cher, mais cela m'étonne que, depuis le temps que vous me connaissez, vous ne sachiez pas que le capital, pour moi, est intangible. Et si je veux que mon capital demeure intact, il faut que mes rentrées se fassent au doigt et à l'œil. Vous me comprenez certainement. Tenez, je vais vous attraper. Sacrifiez donc les bénéfices que vous tirez de la construction du chalet d'Auteuil, vous savez, le chalet d'un hôtel. C'est très simple. » Vous n'avez qu'à vous imaginer que ce monsieur à Nautel n'est jamais venu commander un chalet, bien mieux qu'il n'existe pas. Puisque c'est par hasard que ce monsieur à Nautel s'est adressé à vous, au fond, vous ne perdez rien. N'est-ce pas ? Hein, comme c'est agréable ! Vous êtes content maintenant ? Vous avez vos revenus habituels, de quoi vous plaignez-vous ? Jean Michelet ne répondit pas. Ce fut sa femme qui prit la parole. « Pardon, avec les frais que nous avons faits depuis, le garage, l'auto, nous ne pourrions nous priver de ces bénéfices. D'ailleurs, si vous raisonnez comme cela, monsieur Dossé, on peut dire que toutes les affaires sont dues au hasard. Un client peut aussi bien s'adresser à une maison concurrente qu'à mon mari. » À ce moment, les deux hommes aperçurent le docteur Piton qui sortait du pavillon, accompagné de madame Auriol. Ils s'en furent aussitôt à sa rencontre. Le médecin, à la vue de Jean Michelet et de Dossé, quitta Edith. Vous vouliez me parler au sujet de la petite ? Elle est bien malade, cet enfant. C'est humide, c'est chaud, il n'y a pas d'air ici. Cela fait 10 fois que je dis à la mère de partir. Elle ne doit pas avoir beaucoup d'argent. Écoutez, Michelet, si vous aviez quelque influence, faites-la quitter Paris le plus tôt possible. »
Mais je n'ai aucune influence, s'empressa de dire l'entrepreneur.
Il faut qu'elle parte. Elle le comprend bien, d'ailleurs.
Arrivé sur le boulevard, le docteur s'éloigna.
Allons voir Madame Auriol, fit Dossé à Jean Michelet.
Je ne veux pas y retourner, j'en viens.
Attendez-moi alors, je vais jeter un coup d'œil et je reviens. Il faut tout de même que je sache ce qu'il se passe chez moi.
Peu après, il entra dans le pavillon. Il regarda tous les objets, toutes les étoffes qui donnaient une certaine gaieté à cet intérieur, mais avec hauteur et mépris, parce qu'il connaissait le prix de toutes choses et savait que ces ornements, s'ils faisaient illusion, n'avaient que peu de valeur.
Au lieu d'accepter leur pauvreté, pensa-t-il, de vivre selon leurs moyens, ces gens d'aujourd'hui veulent continuer à jeter de la poudre aux yeux. Ils se privent de nourriture pour acheter des fleurs, des parfums et des mouchoirs de dentelle.
Allons, Dina, tu ne reconnais pas Monsieur Dossé ? Dit-il à l'enfant qui, épuisé par les visites successives de Jean Michelet et du docteur Piton, n'avait même pas levé les yeux quand le propriétaire était entré.
Et la maman, où est-elle ?
À cet instant, Madame Auriol, toujours vêtue de son peignoir, vint de la pièce voisine. À la vue de Monsieur Dossé, elle crut que celui-ci venait lui réclamer l'argent et son visage s'embrunit. Il le devina, mais se garda bien de la rassurer, de peur qu'elle ne trouvât, en son indulgence, un prétexte à se dérober plus tard. À la fin, il dit
« Il paraît que cela ne va pas, mais aussi vous restez là dans votre coin sans rien faire. Vous devriez aller voir vos parents, vos amis, que sais-je. Cela ne devrait pas être à moi de vous donner des conseils. Une femme jolie comme vous l'êtes ne doit pas manquer de relations. » Ah, si vous croyez que les gens viennent à vous, qu'il suffit de les attendre, évidemment, je comprends tout.
Madame Auriol avait pour M. Dossé une profonde antipathie. Chaque fois qu'il se trouvait en sa présence, il ne manquait d'insinuer, en personne que ces choses ne regardent pas, qu'elle ne devait pas toujours s'ennuyer. Bien qu'elle eût peu d'expérience en ce qui concerne ce genre d'allusion, Edith sentait tout de même de quoi il s'agissait. Cela lui répugnait. Mais, comme les enfants, elle eût préféré mourir que de paraître comprendre.
Enfin, c'est maintenant le moment ou jamais de vous débrouiller, continua M. Dossé. Vous vivez à une époque où l'on ne fait pas attention à ces choses. On est indulgent aujourd'hui. Les femmes montrent leurs jambes, leurs poitrines et d'autres choses encore. Personne ne trouve rien à redire, n'est-ce pas ?
Madame Auriol était de plus en plus gênée. Comme si cela l'eût justement incité à continuer, le propriétaire poursuivit.
« Si vous voulez que votre fille guérisse, mariez-vous. Enfin, ne soyez pas seule comme cela. Vous me comprenez, j'en suis certain. Une femme qui n'a pas un compagnon solide est perdue. »
Edith remarqua tout à coup que M. Dossé ne cessait de regarder sa poitrine. Elle baissa les yeux. Son peignoir était légèrement entrouvert. Elle se couvrit alors d'un geste si brusque que M. Dossé en fut froissé. Il se leva.
« Je vous quitte, madame. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit et, à l'avenir, soyez moins vive. Je dis cela dans votre intérêt et dans celui de votre enfant qui, elle, la pauvre, est innocente. »
Quand Jean Michelet eut regagné sa demeure, il ne put s'empêcher de songer à l'attitude cynique de Dossé. Elle l'écœurait.
« Je parierai, dit-il à Antoinette, qu'il va essayer de profiter de la situation. Alors cela dépasse tout. Je comprends que l'on n'ait pas le geste large, mais profiter de la gêne d'une femme seule, de la maladie de son enfant pour la forcer à vous appartenir, je trouve cela dégoûtant. »
L'entrepreneur allait et venait dans son bureau. Tout ce qu'il y avait de généreux en lui commençait à s'éveiller, mais en même temps, la peur d'être dupe, d'être trompé une autre fois encore, le retenait. Un besoin impérieux de défendre, de protéger cette femme, de se dévouer pour elle, naissait en lui, cependant que, d'autre part, un sentiment de prudence lui commandait de n'en rien faire. Ah, s'il n'avait pas été question d'argent, si Madame Auriol eût été riche et qu'elle lui demandait, avec la même ardeur désespérée, non point une aide matérielle mais un appui moral, comme il se fût alors découvert, il y avait en lui assez de feu pour l'amener à risquer sa vie. Il eût tout fait. Il eût été plus qu'un mari, plus qu'un père pour elle.